else but you. I wanna be loved by you alone. Boop-boop-be-doo.
Page à page, l'émission du livre, proposée et présentée par Claire Ambil.
Adiciat, et bienvenue dans votre émission Page à Page. Nous nous retrouvons comme chaque jeudi de 9h30 à 10h sur les ondes de Radio Occitanie. Aujourd'hui, je reçois Ophélie. Bonjour Ophélie.
Bonjour.
Alors, il y en a certains qui la connaissent déjà parce qu'elle est déjà venue faire des émissions à Page. Et puis pour ceux qui la connaissent pas, bah, Ophélie, c'est une collégienne, une jeune collégienne de Toulouse. Et elle vient nous présenter deux livres aujourd'hui. Elle nous en parlera plus longuement tout à l'heure. Mais dans l'instant, comme à l'accoutumée, quelques petites infos autour du livre. Alors je vous rappelle, c'est les vacances, mais la médiathèque José Cabanis, il y a toujours les lectures pour les petits à 11h pour les enfants de 2 ans à 5 ans et à 15h pour les plus grands à partir de 5 ans chaque mercredi. Voilà, je disais pas l'essentiel. Et puis l'accès est toujours libre et gratuit, c'est au Piccolo Teatro et c'est au rez-de-jardin de la médiathèque de Toulouse. Je vous donne un numéro de téléphone pour tout renseignement, c'est le 05 62 27 64 91, 05 62 27 64 91. Et puis à la librairie Priva, le mardi 7 novembre à 18h, vous pouvez rencontrer l'auteur Vladimir Fedorovski pour son dernier roman qui s'intitule « Le roman de l'Orient Express » qui est publié aux éditions du Rocher. Alors cet auteur a publié 18 romans et oui, il écrit beaucoup. Et j'avais d'ailleurs fait une émission sur lui et sur l'un de ses livres le jeudi 1er septembre 2005. C'était le livre intitulé « Le roman de la Russie insolite ». Et dans son dernier, là, le 19e roman, Matahari, Daguilet, Florence d'Arabie et Marlène Dietrich, entre autres, sont parmi les illustres voyageurs de ce train mythique qu'est l'Orient Express. Donc voilà, aventure et intrigue assurées, donc à venir découvrir le mardi 7 novembre à 18h à la librairie Priva, qui, je vous le rappelle, se situe 14 rue des Arts. Et puis je continue avec le Café Philo qui a repris, et oui, mais il n'est plus rue du Thor au Café de l'Esquille, il est au Café des Arcades à Revel, c'est un peu plus loin, mais bon, c'est toujours aussi intéressant. Donc le samedi 18 novembre à 17h, le sujet est le suivant, la philosophie est-elle de gauche? Alors si ça vous intéresse comme sujet, pour venir disserter et discuter et écouter, vous vous rendez au Café des Arcades, à 10 rue Couchant. Oui, c'est curieux comme adresse, mais bon, place de la Halle Centrale, bon ça c'est peut-être plus simple à trouver, à Revel, et c'est là une salle au premier étage. Je vous donne le numéro de téléphone, c'est plus sûr, 05 61 83 57 12, 05 61 83 57 12. Voilà, ça c'était pour le Café Philo avec la philosophie est-elle de gauche, si ça vous intéresse. Et puis je vous rappelle, je vous en avais parlé la semaine dernière, le prix SNCF du Polar, qui est un authentique prix des lecteurs et qui réunit plus de 1000 passionnés de romans policiers de toute la France. Et donc grâce à ces 12 comités de lecture et à régionaux et à son site que je vais vous redonner, vous pouvez vous inscrire et donc proposer ce que vous avez écrit, si vous avez écrit des petits polars ou si vous avez envie de le faire, n'hésitez pas, c'est toute l'année les inscriptions, donc je vous donne l'adresse du site, www.polar.sncf.com, www.polar.sncf.com. Et puis je voulais juste vous présenter rapidement un livre dont on va peut-être parler un peu plus je vais vous dire pourquoi. Donc c'est le dernier roman de François Valéjot qui s'intitule Ouest et qui est publié aux éditions Viviane Ami. Et il vient de faire partie, on vient d'apprendre qu'il fait partie de la troisième sélection du prix Goncourt 2006. Alors retenez bien ce titre, peut-être qu'il sera le futur prix Goncourt concours de cette année, Ouest, de François Valéjeau. Et donc François Valéjeau est un auteur assez... voilà, il a écrit beaucoup de livres. Il a écrit, entre autres, Vacarme de la salle de bal. Il a écrit Pirouette dans les ténèbres. Il a écrit Madame Angeloso et Groom. Il a écrit également Voyage des grands hommes. Tout ça depuis 1998. Donc vous voyez, il a un rythme assez soutenu, ce monsieur. Donc voilà, peut-être que ça sera le futur prix Goncourt de cette année. Donc c'est à voir.
Page à page, Claire Ambille.
Alors, je reviens vers mon invité, puisque les petites infos sont terminées. Alors, Ophélie, on va te... Pour ceux qui ne te... Bon, certains te connaissent, d'autres ne te connaissent pas, donc tu vas un petit peu te présenter. Tu as quel âge ?
14 ans et demi.
Voilà, et tu es en classe de...
4e.
Voilà, dans un collège de Toulouse, donc. Et donc, 4e, donc ça veut dire seconde langue vivante. Tu fais quoi comme langue vivante ?
Espagnol.
En deuxième langue.
Mm-hmm.
D'accord, ça te plaît ?
Oui.
Bon, t'as pas choisi de lire en espagnol ?
Non.
Bon, ça va, alors. Et t'as le temps de lire quand même, parce que la quatrième, il y a beaucoup de travail, beaucoup de devoirs, non ?
Oui, il y en a un peu, oui, mais j'ai le temps de lire, ouais.
Un peu beaucoup, hein, non ?
Oui, oui.
Oui, mais t'as quand même le temps de lire. Alors, qu'est-ce que tu nous as choisi aujourd'hui ?
La Vénus d'Île. Et quand j'avais
de Prosper Mérimée.
Voilà. Et quand j'avais 5 ans, je m'ai tué de Howard Buten.
De Howard Buten. Donc deux livres fort différents, hein, qui est plutôt fantastique, on va dire, et l'autre,
voilà, et l'autre
qui
plus réaliste.
Plus réaliste et même voire un peu dramatique. La fin, c'est un peu dramatique.
Oui, un petit peu.
On peut dire. Alors ben écoute, je te laisse faire, hein, voilà. Vas-y. Tu veux commencer par lequel ?
La Vénus d'Île de Prosper Mérimée.
D'accord.
Donc c'est une nouvelle fantastique parce qu'elle est courte, elle dure 4 jours, dans la fiction et la narration. À la base, ce livre, je devais le lire pour le français, pour l'étudier.
Pour l'étudier en cours de français.
Donc je l'ai pas vraiment choisi, mais après bon. Voilà. Et le narrateur, il est intérieur à l'histoire, mais on ne connaît pas son nom.
D'accord, il n'est pas défini, on ne le nomme pas.
Non. Donc le résumé, c'est... la nouvelle, elle se situe en Catalogne, près de Perpignan, mm-hmm. au pied du Canigou.
D'accord.
Alphonse, c'est le fils de monsieur de Perret-Aurade. Il doit se marier à une riche héritière.
Mm-hmm.
Donc le narrateur, lui, il vient à Ile pour observer des monuments antiques et du Moyen-Âge de la région. Il n'est pas au courant de la découverte d'une statue qui s'appelle la Vénus. Il est archéologue, illustre, qui vient de Paris et qui devait tirer le Roussillon de l'oubli.
D'accord.
Et donc il arrive à Ile le mercredi soir. Le jeudi, il est au courant qu'il y a une statue appelée Vénus et décide de l'observer avec monsieur de Perret-Aurade. Parce qu'elle est assez étrange, quand ils ont essayé de la déterrer, il y en a un qui s'est cassé la tête, la jambe. Et elle a des mauvaises ondes, en fait.
Elle est assez mystérieuse, cette statue.
Voilà. Mm-hmm. Donc, le vendredi, c'est le jour du mariage. Le narrateur, il a joué un jeu, et comme il avait l'alliance à son doigt, pour la garder, pour l'avoir, il a décidé de la mettre à l'annulaire de la Vénus. Et il a joué.
Et, ne jamais s'amuser avec ses alliances. Hein,
voilà.
Avec les
alliances. Mais le problème, c'est qu'il l'a oublié.
Ah ben voilà, en plus, il l'a oublié.
Donc, il a quand même... il est allé au mariage, à la cérémonie, ils ont bu. Et après, il a décidé d'aller chercher la bague. Mais quand il est allé devant la Vénus, la bague est restée coincée.
Il n'a pas pu la retirer de l'annulaire de la Vénus.
Voilà.
D'accord.
Donc, on ne sait pas s'il a trop bu ou si... elle a décidé d'être mariée avec lui.
Et donc, elle aurait gardé la bague...
Voilà.
Pour elle.
Donc il va se coucher, après il y a tout le monde qui le suit, tout le monde va se coucher, mais dans la nuit il entend des bruits de pas dans les escaliers,
mm-hmm.
Et bon, il s'endort quand même, hein, ça peut
ah
être
bon,
très bien.
Ça le gêne pas trop quand même.
Bah non, c'est peut-être quelqu'un qui descend ou qui monte. Bon.
Oui.
Donc le samedi matin, il y a eu un meurtre.
Ah, voilà, on se réveille le samedi matin, il y a quelqu'un qui est mort.
Voilà, et donc c'est le mari de la riche héritière, donc.
Le mari de la mariée ?
Voilà, le marié.
Voilà, le marié, en fait.
Voilà, donc il est mort.
Ah oui, Ouh là là.
On n'en dira pas plus.
Ah ben non, non, il faut lire le livre. Hein.
Mais bon, cette nouvelle, elle a débuté comme quelque chose de réel, mais elle se termine un peu dans l'irréel. Et elle mêle des éléments réalistes à des éléments surnaturels, afin de conduire le lecteur à son insu vers le trouble du doute et de l'interrogation.
Oui, parce qu'après, on ne sait pas si c'est vraiment, si ça peut être réel ou si c'est vraiment très mystérieux et surnaturel, en fait.
Ouais, on ne sait pas.
Mais c'est à chacun de faire sa conclusion,
voilà.
Perso.
Bah oui.
Ah, bah oui.
Mais moi, j'ai bien aimé cette nouvelle. Elle est très intéressante. Mais le texte est vraiment compliqué pour une histoire qui est assez simple, en fait.
Oui, l'histoire est simple, mais le style, tu veux dire, le style de l'auteur est un peu compliqué. C'est
voilà.
Un peu des mots de vieux français.
Voilà. Donc, il faut lire cette nouvelle dans le calme, sinon on se mélange les pinceaux.
Oui, il vaut mieux être au calme, quoi. Pas avec la musique à côté, pas le MP3 dans les oreilles.
Non.
Hein? Tu veux nous en lire un extrait?
Ah, bah oui.
Voilà.
Donc,
tu nous situes un petit peu l'extrait.
Le narrateur, donc, il regarde la statue par-dessus sa fenêtre et il voit des personnes arriver près de la statue et lui parler. Donc, te voilà donc, coquine. Le terme catalan était plus énergique. Te voilà, disait-il. C'est donc toi qui as cassé la jambe à Jean Col. Si tu étais à moi, je te casserais le cou. Bah, avec quoi, dit l'autre. Elle est de cuivre et si dure qu'Étienne a cassé sa lime dessus en essayant de l'entamer. C'est du cuivre, du temps des païens. C'est plus dur que je ne sais quoi. Si j'avais mon ciseau à froid, il paraît que c'était un apprenti serrurier, je lui ferais bientôt sauter ses grands yeux blancs, comme je tirerais une amande de sa coquille. Il y a pour plus de 100 sous d'argent. Ils firent quelques pas en s'éloignant. Il faut que je souhaite le bonsoir à l'idole, dit le plus grand des apprentis, s'arrêtant tout à coup. Il se baissa et probablement ramassa une pierre. Je le vis déployer le bras, lancer quelque chose, et aussitôt, un coup sonore retentit sur le bronze. Au même instant, l'apprenti porta la main à sa tête en poussant un cri de douleur. « Elle me l'a rejeté !» s'écria-t-il. Et mes deux polissons prirent la fuite à toutes jambes. Il était évident que la pierre avait rebondi sur le métal. Il avait été puni de ce drôle d'outrage qu'il faisait à la déesse. Je fermai la fenêtre en riant de bon cœur. Encore un vandale puni par Vénus. Puissent tous les destructeurs de nos vieux monuments avoir ainsi la tête cassée. Sur ce souhait charitable, je m'endormis. Il était grand jour quand je me réveillai. Auprès de mon lit était d'un côté monsieur de Péréorade, en robe de chambre, et de l'autre un domestique, envoyé par sa femme, une tasse de chocolat à la main. « Allons, debout, parisien, voilà bien mes paresseux de la capitale !» disait mon hôte, pendant que je m'habillais à la hâte. « Il est 8 heures et encore au lit. Je suis levé, moi, depuis 6 heures. » Voilà 3 fois que je monte, je me suis approché de votre porte sur la pointe du pied. Personne, nul signe de vie. Cela vous fera mal de dormir à votre âge. Et ma Vénus, que vous n'avez pas encore vue. Allons, prenez-moi vite cette tasse de chocolat de Barcelone. Vraie contrebande. Du chocolat comme on n'en a pas à Paris. Prenez des forces, car lorsque vous serez devant ma Vénus, on ne pourra plus vous en arracher. En 5 minutes, je fus prêt, c'est-à-dire à moitié rasé, mal boutonné et brûlé par le chocolat que j'avais avalé bouillant. Je descendis dans le jardin et me trouvai devant une admirable statue. C'était bien une Vénus, et d'une merveilleuse beauté. Elle avait le haut corps nu, comme les anciens représentaient d'ordinaire les grandes divinités. La main droite levée à la hauteur du sein était tournée, la paume en dedans, le pouce et les deux premiers doigts étendus, les deux autres légèrement ployés. L'autre main, rapprochée de la hanche, soutenait la draperie qui couvrait la partie inférieure du corps. L'attitude de cette statue rappelait celle du joueur de Moore, qu'on désigne, je ne sais pas trop pourquoi, pour le nom de Germanicus. Peut-être avait-on voulu représenter la déesse au jeu de Moore.
Ben merci Ophélie pour cet extrait, tu lis très bien.
Merci.
Donc c'était un extrait donc de la Vénus d'Île de Prosper Mérimée. Et avant donc de présenter ton deuxième livre, on fait une petite pause musicale.
D'accord.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Thank you.
since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. I can eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away.
Et nous revoici dans votre émission Page à Page, où je reçois aujourd'hui Ophélie, jeune collégienne toulousaine, en classe de 4e, et qui nous a déjà présenté le premier livre, qui s'intitulait La Vénus d'Île de Prosper Mérimée. Et là, on va attaquer, le deuxième qu'elle va nous présenter tout de suite. N'est-ce pas, Ophélie?
Bien sûr. Donc, quand j'avais 5 ans, je m'ai tuée, de Howard Buten. Donc, Howard Buten, c'est l'auteur de plusieurs romans, parmi lesquels il y a donc « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué »,« Monsieur Butterfly »,« Quand est-ce qu'on arrive », etc. Il y en a plein d'autres.
Il y a aussi un cœur, le cœur sous un rouleau compresseur. Ah, c'est la suite, en fait, de « Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué ». Mais il est très difficile à trouver, ce livre. Donc, c'est pour ça.
Mm-hmm. Donc, c'est un psychologue clinicien, il est spécialiste des enfants autistes. On s'en aperçoit un peu quand même dans le livre. Les enfants sont assez spéciaux, on va dire.
Et il y a des termes un peu. Il emploie des termes. Un peu compliqués.
Mais pas souvent. Donc j'ai choisi ce livre aussi pour le français, mais c'était parmi une liste. On avait une liste de livres et j'ai choisi donc quand j'avais 5 ans, je m'ai tué parce que on m'en a dit beaucoup de bien et ça avait l'air assez mignon comme langage.
Oui, le style c'est pas Prosper Mérimée quoi. Là c'est différent. Voilà. C'est pas le même style, c'est plus léger.
Ouais. Donc le résumé, c'est un petit garçon qui s'appelle Gilles. Il se retrouve dans une résidence spécialisée. Il voit tous les jours un docteur, qui est le docteur Nevel. Il lui parle, mais Gilles, il veut rien entendre. Il veut parler à Jessica. Donc on ne sait pas trop pourquoi Jessica.
C'est Jessica?
Voilà. Il raconte des moments de sa vie qui l'ont marqué. Quand il s'ennuie, il repense à des bons moments. Et on sait que Jessica a été dans le coma à l'hôpital. C'est une histoire d'amour de petits qui voulaient devenir grands et qui font beaucoup de bêtises aussi, malheureusement.
Oui. Il y a des passages rigolos.
Ah oui.
Oui. Oh, presque. C'est un livre où on rit.
Oui.
À certains passages,
mmh. Oui, ça dépend, pas tous quand même.
Non.
Donc, c'est une histoire qui nous tourne vite en quelque chose de dramatique.
Oui, donc c'est plutôt un livre, voilà, il a plutôt dramatique, quoi, comme voilà. Livre.
Donc, c'est un peu mon livre coup de cœur. Je l'ai beaucoup bien aimé.
Donc, tu as choisi, voilà, ce livre-là, coup de cœur, quoi.
Voilà. Donc, je vais dire pourquoi je l'ai aimé. C'est parce que la langue, elle est assez infantile.
Mmh. Oui, c'est vraiment les dialogues d'enfants de voilà. 5-6 ans, enfin des petits, quoi.
Et donc, c'est très facile à comprendre. Je trouve que le thème est assez intéressant aussi. Une petite histoire d'amour de petits.
Oui, même si c'est dramatique, c'est quand même... oui, c'est sûr, c'est...
Et on met, par contre, dans ce livre, on s'aperçoit vite que les adultes, ils cherchent des explications à tout pour comprendre ce qui peut se passer dans la tête d'un enfant, alors que, tout simplement, entre ces deux enfants, il n'y avait que de l'amour.
Oui. Et qu'est-ce que t'en penses de ça ?
Ben, dans le livre, c'est vrai qu'on s'en aperçoit vite qu'ils cherchent des mots super compliqués pour...
À une situation toute simple, voilà. Finalement. Et tu penses que dans la vie, c'est pareil aussi ?
Oui, peut-être.
Ou c'est que dans les livres ?
Il doit y en avoir aussi un petit peu dans la vraie vie.
Tu penses que les parents, les adultes, tout ça, ils cherchent trop d'explications à des situations qui sont simples ?
Ouais, voilà, mmh. Je trouve.
Bon. On écoute ton extrait. Tu vas nous lire un petit extrait, donc tu nous voilà. Le situes avant.
Donc, c'est Jessica et Gilles, ils sont allés au zoo avec leur classe.
Donc là, ils se rappellent en fait.
Voilà, oui, il se rappelle
des moments qu'il a passés avec Jessica.
Voilà. Donc, ils ont pris le bus, ils sont arrivés au zoo. Ils ne sont pas ensemble avec Jessica parce qu'ils ne sont pas dans le même groupe. Donc, voilà. Alors, et puis Jessica est sortie et elle m'a vue et elle est venue vers moi. Et alors j'ai eu honte parce qu'on voyait très bien la cicatrice sur mon ventre. Ce n'est pas grave que tu ne portes pas ta chemise, elle m'a dit, Jessica. C'est les germes et les bactéries qui donnent des maladies, pas les courants d'air, je te le dis. Comment tu le sais ? J'ai répondu. Je l'ai lu dans un magazine. Menteuse, t'es trop jeune. Mais si, on les reçoit au courrier chez moi. Mon papa est professeur de lycée et il me laisse lire tout ce que je veux. M'avons aveuille, j'ai dit. C'est du javanais, ça veut dire mon œil. Mon œil, ça veut dire que je la croyais pas. Et puis j'ai vu Shrubs, qui demandait au monsieur du zoo où étaient les élans. Et ensuite, on est tous allés voir les porcs-épics. Ils dormaient dans un trou. On voyait presque rien. Je m'ai rappelé un Popeye où ce qu'il était piqué par un porc-épic. Et puis après, il buvait de l'eau qui lui giclait de partout, comme par les trous d'une passoire. La crise. Jessica s'est appuyée contre la chaîne des porcs-épics. Elle était en colère. « Tu n'avais pas besoin de faire tomber cette bouteille », elle m'a dit. « Tu aurais pu dire non merci, je n'en ai pas envie. Ça a taché ma robe. » Je disais que j'étais Tarzan et que je lui ai répondu. « T'es fou », elle m'a dit. Et puis, elle est partie voir les lamas. Dans le même machin que les lamas, il y avait un gros oiseau. C'était un oiseau d'Australie, un kookaburra. Jessica le regardait, alors j'ai chanté une chanson que j'avais apprise en musique. Kookaburra perché dans le vieux caoutchouc, roi de la brousse, ris kookaburra, ris grand joie, chante ta joie. Jessica m'a regardé une minute. Elle écoutait ma chanson, et puis elle a secoué la tête. Ça ne coûte rien d'être gentil, elle a dit. C'est mon papa qui l'a dit. Et alors ? Et alors quoi ? Et alors ? Et alors quoi ? Tous les lamas dormaient. Mais comme ils n'étaient pas dans les trous, on pouvait les voir. « Parfois, je ne lis pas les magazines », elle a dit Jessica. « Parfois, je les regarde seulement, les images. »« J'aime regarder les vêtements, ils sont très élégants. »« Je ne regarde jamais les vêtements », j'ai dit moi. « Jamais. Tu regardes les vêtements de mademoiselle Iris ?»« Pas du tout. Bien sûr que si, elle s'assied à côté de toi tout le temps et tu regardes ses vêtements. »« Et quand elle croise les jambes, tu regardes ses chaussures. Je t'ai vu dans le car. » Alors, on a regardé les lamas tous les deux. C'était des drôles de bêtes, moi personnellement, je trouve. « Regarde, en voilà un joli », a dit Jessica. « Il est tout noir, avec des chaussettes blanches, comme mon cheval. »« T'as pas de cheval ?»« Si, j'en ai un. »« Ah oui, où ça ?»« Si on te le demande... » J'ai regardé le lama, il crachait par terre. « Tu sais, Jessica, une fois, j'ai eu un cheval, et je lui ai dit de marcher sur la tête de mademoiselle Filmer. » Et alors, le sang lui est sorti par les yeux, et on l'a emmené au four, et on l'a brûlé. Et pendant ce temps-là, moi, je suis partie sur mon cheval. « Je parie qu'elle devait sentir la merde », elle a dit Jessica. Et puis je m'ai mis en rogne. Faut pas dire merde, je lui ai dit. C'est des gros mots. Mais Jessica est partie en disant merde, 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 merde. Après, on est allé voir les bisons. Ils dormaient tous. Pas tous dans les trous. Je dis des gros mots si je veux. On vit en République, Gilbert, m'a dit Jessica. Je m'appelle pas Gilbert, j'ai dit ça. Je m'appelle Glulp. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Et puis on allait aux alligators, qui sont mes bêtes favorites. Depuis que j'ai failli en avoir un à Miami, en Floride, quand on y était parce que là, ils y vendent des boîtes en carton. Des bébés. Au zoo, ils étaient sur une île, entourés, une fosse, et puis il y avait un peu d'herbe et une chaîne. Pas de cage. Je les ai regardés. J'ai un alligator à la maison, il s'appelle Ali. Il est mort, je l'ai eu à l'aérodrome, il est empaillé. Ils souriaient tous. Alors j'ai sauté par-dessus la chaîne et j'ai marché sur l'herbe pour aller me pencher par-dessus la fosse. Et j'ai dit « Salut les alligators !» Il y en avait 5, ils dormaient tous et il y en avait un qui avait la bouche grande ouverte, sans bouger. Et puis j'ai attendu toutes les classes hurler. Je m'ai retournée et j'ai vu une mademoiselle Iris qui courait dans tous les sens. Et Schraps lui a dit « Tout va bien mademoiselle, je crois qu'il les connaît. » Mais mademoiselle Iris s'est mise à gueuler. « Reviens ici tout de suite Gilbert, tu m'entends? Sinon tu vas avoir affaire à moi. » Il ne s'appelle pas Gilbert, il s'appelle Gulp. J'ai entendu quelqu'un dire ça dans mon dos et je m'ai retournée de nouveau. C'était Jessica qui était près de moi. « Tu ferais mieux de sortir tout de suite, » je lui ai dit. « Ils vont te tuer, te bouffer, Jessica. C'est pas tes amis. Je vais me présenter, » qu'elle a dit. Le vent soulevait un tout petit peu sa robe et on voyait ses chaussettes qui montaient aux genoux. Et un des alligators a fait comme un coup de fouet avec sa queue. « Je m'appelle Jessica Ranton, » elle lui a dit. « Ils comprennent pas, » j'ai dit, moi. Ça doit être des alligators espagnols. Une fois, j'ai vu un dessin animé où Popeye donnait un coup de poing à un alligator. Il l'envoyait en l'air et quand il retombait, c'était des sacs et des valises. Et alors ? Alors rien, elle a dit. Et elle s'est mise à marcher vers les alligators. Je l'ai attrapée par le bras. « Viens, on s'en va !» Les élèves criaient encore plus fort. Mademoiselle Iris se mordait la main et elle faisait des signes à un monsieur au zoo. « Jessica, » j'ai dit. « Je m'appelle pas Jessica. Comment tu t'appelles ?»« Comptez ça. » C'est mon papa qui m'appelle comme ça, mais toi tu ne peux pas.
Eh bien merci hein, Ophélie, c'était très bien lui aussi. Et c'est vrai que par rapport au style de la Vénus d'île de Prosper Mérimée, ça change. Hein. C'est plus sympa, hein. C'est plus sympa à lire. Et pourquoi tu as choisi ce passage là au zoo ? T'aimes bien aller au zoo ?
Non, c'est parce qu'il était rigolo. Était rigolo et puis c'est mignon. C'est des bêtises assez rigolotes, je trouve.
Voilà quoi, que beaucoup d'enfants ont pu faire quand ils étaient petits.
Quand même, aller voir des alligators, j'espère que c'est pas arrivé souvent.
Ça t'est arrivé à toi ?
Non, pas
moi. Non. T'as quand même été au zoo des fois ?
Oui, une fois.
C'est arrivé ?
Ouais.
Bon alors, écoute, je te remercie hein, d'être venue, Ophélie, nous avoir présenté donc La Vénus d'île de Prosper Mérimée et Quand j'avais 5 ans, je m'ai tué d'Howard Buten. Espérons que donc c'est les vacances là. Voilà. Donc j'espère que ça va donner envie à nos auditeurs donc de lire voilà ces deux livres là, hein, puisque tu les as bien mis en avant. Donc voilà, je trouve que c'est bien pour les vacances, hein, pour les enfants qui sont en vacances ou les personnes qui travaillent pas et qui sont en vacances eux aussi. Eh bien voilà, ils peuvent bouquiner avec deux titres fort sympathiques et fort différents, hein, tous les deux.
Voilà.
Et puis, moi, je rappelle simplement que vous pouvez réécouter les émissions sur le site de Page à Page, qui est pageapagetoulouse.free.fr, si vous en avez loupé une ou si vous voulez en réécouter une. Et puis, la semaine prochaine, tout le monde sera là. Hein, j'espère que vous aussi, vous serez fidèles à Page et à Radio Occitanie. Et on se retrouve donc jeudi prochain à 9h30, même jour, même heure. Et je vous ferai une lecture certainement d'un livre que j'ai beaucoup aimé et que voilà, j'ai envie de vous faire partager. Et puis, bon, les semaines d'après, je vous dis pas tout, mais voilà, il y aura des invités, des écrivains, quelqu'un qui viendra parler d'une manifestation qu'il va y avoir en novembre qui s'appelle Lettres d'automne. Et puis voilà, je ne vous en dis pas plus. Merci Ophélie.
Merci.
Tu reviendras peut-être dans quelques temps avec de nouveaux titres.
Ben, bien sûr.
Bon, très bien. Alors à d'ici à tous.